matin à tous et à toutes et bienvenue à l'émission Parole du matin. Raymond Perron ici qui vous accueille, qui vous ouvre la porte toute béante afin que vous puissiez y entrer et méditer avec moi la bonne parole de notre Dieu. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ben, nous en sommes là où nous avions laissé la dernière fois, c'est-à-dire dans le livre du prophète Daniel. Et ce matin, nous revisiterons la belle portion, n'est-ce pas, de la fournaise ardente. Et le tout se trouve au chapitre 3 du livre de Daniel. Donc, nous lirons le chapitre au complet, puisque c'est un tout, hein, c'est un récit qui se tient. Alors, Daniel, chapitre 3, les versets 1 à 30, dont je fais immédiatement lecture. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée le roi. Un héros cria à haute voix. « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau et de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. » Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues, se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. » Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez !» Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. On ne reste jamais insensible, n'est-ce pas, à ce beau récit qui nous est pourtant familier, hein, et qui nous montre à quel point la fidélité est enviable, est estimable. La plupart des gens d'ailleurs, même les gens qui ont une connaissance très rudimentaire de l'Ancien Testament, sont familiers avec l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, les trois jeunes Hébreux, dans la fournaise ardente. Alors, c'est simplement le récit de trois jeunes hommes qui ont choisi, qui ont voulu prendre position pour leur foi, même si cela aurait pu leur coûter leur vie. Cependant, il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus dans cet événement historique que trois jeunes hommes qui font la bonne chose. En même temps qu'il est intéressant de contraster l'esprit de la foi qui fait ce qu'il doit faire, hein, l'esprit de la foi fait ce qu'il doit faire, en contraste avec l'esprit du monde qui fait uniquement ce que ça le tente de faire. La personne, qui a la foi fait son devoir, fait ce qu'elle doit faire. La personne du monde, la personne qui n'a pas la foi, fait ce qu'il attend de faire. Il y a toute une philosophie de vie d'impliquer ici. Je fais ce qui me tente ou je fais ce que je dois. Je ne sais pas si c'est encore le cas, ça fait un petit moment que je n'ai pas jeté un œil sur le journal Le Devoir, mais à l'époque, lorsque j'étais plus jeune, il y avait cette devise du journal Le Devoir, « Fais ce que dois ». Donc ce matin, j'ai intitulé mon message « La fournaise ardente revisitée ». Nous voyons dans un premier temps, avec l'érection de cette énorme statue de Nebuchadnezzar, nous voyons le symbole de la conformité. L'histoire se met en branle avec ce fameux roi babylonien, Nebuchadnezzar, qui décide d'ériger une énorme statue d'or dans la plaine de Babylone. Et lorsque je dis énorme, ce n'est pas une exagération, vous savez, c'est une statue qui devait faire dans les 150 mètres de hauteur et 15 mètres de large. Alors, on ne parle pas d'une statuette ici, on parle d'un monument massif et impressionnant. Et l'idée de la statue, d'or qui plus est, n'est pas sans nous rappeler le rêve que Nebuchadnezzar avait eu au chapitre précédent, au chapitre 2. Hein, on se rappellera qu'il avait eu un songe, il avait vu une statue avec une tête d'or. Et on sait que dans l'interprétation que Daniel lui avait donnée, Nebuchadnezzar était la tête d'or et le reste du corps, lui, était fait d'autres matériaux qui décrivaient des royaumes moindres qui devaient suivre, faits d'airain, de fer et d'argile. Et tous ces royaumes-là finiront par se fragmenter et être détruits par la venue du royaume de Dieu, cette pierre qui s'est détachée sans l'aide d'aucune main humaine. On se rappellera de cela au chapitre 2. Ici, cependant, la statue, elle est d'or seulement. Vraisemblablement pour contredire le rêve. Voyez-vous, Nebuchadnezzar voulait que son royaume, que sa gloire, dure à jamais. Et le message qu'il veut passer ici, c'est « Oui, mon royaume et ma gloire vont perdurer. » La statue, selon toute vraisemblance, représentait le roi ou son dieu ou encore les deux, parce que Nebuchadnezzar avait tendance à se croire divinité. Et cette statue mettait les choses bien au clair. Le message était le suivant. « Vous pouvez pratiquer la religion que vous voulez, dans la mesure où votre première allégeance est à Nebuchadnezzar. » Qui plus est, cette statue-là était érigée dans la plaine de Babylone. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la plaine de Babylone? Est-ce que ça vous rappelle un événement? Ben, c'est précisément le lieu où la tour de Babel avait été construite en Genèse chapitre 11. Et l'érection de la tour de Babel, elle avait été faite dans un double but. Hein? Nous lisons en effet, Genèse 11, verset 4, « Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » C'était carrément une rébellion à l'ordre de l'Éternel qui voulait remplir toute la terre. Et Nebuchadnezzar, vous savez, poursuivait exactement les deux mêmes buts. Il voulait, par l'érection de cette statue, établir un témoignage à sa gloire et deuxièmement, établir un signe d'unité pour son royaume. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il convoque non seulement les dignitaires locaux, mais bien tous les officiers de son empire. Nous lisons en effet à plusieurs reprises, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces sur lesquelles Nebuchadnezzar avait autorité. Il les convoque tout ce beau monde-là pour la dédicace de la statue. Ce n'était rien de moins qu'une déclaration publique de l'unité de l'Empire. L'unité de l'Empire de Nebuchadnezzar, fondée sur l'adoration commune de son image, c'est-à-dire fondée sur une unité religieuse idolâtre qu'il était prêt à imposer, même s'il le fallait, en y ajoutant une menace de mort pour les contrevenants. Et ça, chers amis, c'est le modus operandi, c'est le mode d'opération des régimes totalitaires. Parce que les régimes totalitaires ont continué d'opérer sur cette même base à travers l'histoire. Ils ont établi des symboles visibles d'unité. Souvent, ce sont des statues des dictateurs ou encore des symboles nationaux auxquels on doit rendre hommage si on veut progresser dans la société et rester en vie. Avant sa mort, la statue de Mao dominait la Chine, tout comme l'image de Lénine, d'ailleurs, était omniprésente dans l'ancienne Union soviétique. Et cette espèce de vénération-là du gouvernement national, bon, elle peut être combinée à d'autres affiliations religieuses. Tant et aussi longtemps, cependant, que la loyauté première est claire, à savoir loyauté à l'État. Voyez, c'était la même chose dans l'Empire romain. Dans l'Empire romain, les chrétiens avaient le choix entre Curios César ou Curios Christos, César est Seigneur ou Christ est Seigneur. Vous savez, en Chine, encore aujourd'hui, il est permis aux chrétiens d'adorer, mais uniquement dans les églises qui sont soutenues, qui sont régulées, qui sont régies par l'État. Les églises de maison, là, les églises clandestines, demeurent persécutées et constamment menacées de mort. Il est évident que notre culture, là, qui se revendique d'être quand même plus subtile, plus civilisée, met la même pression sur nous, croyants, pour mettre Dieu au second rang. Dans tous les débats de société, on nous presse constamment de garder nos croyances privées. On dit « vos croyances sont secondaires ». Ça, c'est votre affaire, mais n'amenez pas votre religion sur la place publique parce que la religion des uns ne peut devenir la loi des autres, comme disait un ex-premier ministre. On dit que la sphère publique doit demeurer indépendante de la religion et on invoque la séparation Église-État, de sorte que certains politiciens choisissent pratiquement de confesser une espèce de schizophrénie, là, d'opération, hein. Je veux, en exemple, le sénateur, l'ex-sénateur du Rhode Island, Patrick Kennedy, le fils d'Edward Kennedy, qui disait « mes croyances n'influencent pas mes positions politiques ». Alors, qu'est-ce qui influence ses positions politiques si ce ne sont pas ses croyances? Et si ses croyances ne sont pas dignes d'avoir une influence sur ses positions politiques, il ne devrait pas les tenir, ces croyances-là. C'est de la schizophrénie à l'état pur. Donc, dans notre société contemporaine, on retrouve exactement la même situation. Vous savez, aujourd'hui, on divise la société en sphères privées et en sphères publiques. On dit souvent, bon, la sphère privée, ça comporte toutes les préférences personnelles. C'est vos valeurs, c'est votre religion, c'est vos croyances. Alors que la sphère publique, elle regroupe toute la connaissance scientifique, n'est-ce pas? Comme si les croyances religieuses étaient contraires à la science. Alors, les valeurs sont donc réduites à l'arbitraire, sont réduites à des décisions existentielles. Vos valeurs, ce sont des choix individuels, mais ce qui lie le monde dans la sphère publique, c'est bien sûr les faits. Et les faits sont déterminés par un groupe de personnes, hein? Alors, quand on parle de non-confessionnalité, là, on veut dire qu'on se soumet à la confessionnalité athée de quelques personnes seulement. Donc, au tout début, il semble que la statue de Nebuchadnezzar ait atteint son objectif, parce qu'on voit les gens de toutes les nations aux alentours sur lesquelles régnait Nebuchadnezzar, qui effectivement répondent à son invitation. Quand on dit une invitation, là, c'est une invitation à la Al Capone, hein? Une invitation qu'on ne peut pas refuser, une invitation irréfutable. Tout le monde se rend là, et voilà qu'il y a tout un rassemblement, et au son de musique bizarre, hein, on mentionne là toute une pléthore d'instruments, d'ailleurs aucun instrument mentionné dans le texte ne se retrouve dans le culte d'Israël, et pendant un moment, le monde entier, littéralement, représenté par les officiels présents, est prosterné devant la statue de Nebuchadnezzar. Le monde entier habité de l'époque semble finalement uni. Voilà, nous avons une unité mondiale, c'est pas extraordinaire, la grande fraternité mondiale, et tout indique, n'est-ce pas, que la malédiction de Babel a été renversée. parce que la malédiction de Babel, la confusion des langues, on s'en souviendra, avait eu pour but de disperser, de séparer les peuples, et les voilà maintenant réunis à nouveau, tous ensemble, d'un même accord, à genoux, bébêtement, devant la statue d'or de Nebuchadnezzar. Et ça m'amène à mon deuxième point, les conséquences de la conformité ou de la non-conformité. Parce que c'est ici, alors que tout semble beau, que toute l'herbe semble verte dans les jardins de Nebuchadnezzar, c'est ici que se fait entendre une note discordante. Alors que le monde entier est complètement omnubilé par la statue d'or de Nebuchadnezzar, semble tenir un même discours religieux, voilà qu'il y a une note discordante qui se fait entendre. Ce n'est pas une armée, n'est-ce pas, qui marche avec puissance, avec des armes de pointe et qui vient déranger, qui vient perturber ce culte d'adoration. Non, ce sont trois jeunes hommes, en apparence bien insignifiants, encore tout jeunes, un trio de jeunes hommes qui résistent au décret du roi Nebuchadnezzar. Il faut quand même, passez-moi l'expression, du toupette. Hein? Verset 12 nous dit, « Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Un tel acte de désobéissance, c'est intolérable pour l'Empire, bien sûr. Alors, les satrapes sont scandalisés et Nebuchadnezzar est dans tous ses états. Comment ose-t-on résister à mes ordres, moi qui suis le roi par excellence, hein? Et c'est important de noter ici, dans toute l'immensité de la foule, parce qu'il y en a du monde ici, là, et c'est des grosses légumes, hein, passez-moi l'expression. Ce sont tous des gens très importants, là. Trois hommes seulement ont refusé d'adorer la statue. Vous savez, se tenir pour Dieu va souvent nous isoler. Ces trois jeunes hommes-là marchent définitivement à contre-courant. Ils sont esselés dans la situation présente. Et ça nous dit qu'il y a des circonstances dans la vie où on ne peut simplement pas se cacher dans la foule. On ne peut pas se mouler, n'est-ce pas, à la masse. Nous avons à prendre position et souvent, nous avons à prendre position seul. Ça prend du courage, ça prend la grâce de Dieu. Rappelons-nous, le grand réformateur allemand Martin Luther, à la diète de Worms, lorsque on essaie, n'est-ce pas, de lui faire renier ce qu'il avait écrit. Et voilà la réplique de Luther. « Si l'on ne me convainc par l'Écriture ou par des raisons évidentes, je suis dominé par les saintes Écritures que j'ai citées et ma conscience est liée par la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il est dangereux d'agir contre sa propre conscience, que Dieu me soit en aide. » Chers amis, par qui ou par quoi notre conscience est-elle liée? D'abord, est-ce que notre conscience a un lien ou si notre conscience va au gré du courant, est emportée au fil des vents et est prête, n'est-ce pas, à s'agenouiller devant la masse, à se plier devant le goût du jour, devant la mode du jour? Hein? Ou encore, est-ce que ma conscience est tellement rendue molle, malléable, que je n'ai aucune difficulté à la courber à la demande de tous et chacun? À d'autres moments, personne dans notre entourage immédiat ne saura si nous nous tenons pour notre foi ou si nous cédons à la pression, mais sachons que Dieu, lui, est notre audience la plus importante. Et dans le cas de Shadrach, Meshach et Abednego, le procès de leur foi a été public. Nous lisons effectivement au verset 13, « Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. » Bon, j'ai pas pu terminer la leçon ou la méditation de ce matin parce que j'avais trop de choses sur mes notes. Nous poursuivrons lors de la prochaine émission, mais nous nous arrêtons ici. Mais la leçon à retenir ce matin, c'est qu'il y a une possibilité pour quelqu'un mu par la grâce de Dieu de marcher à contre-courant. Vous savez, on dit souvent les gens sont des moutons, les gens sont des suiveux, comme on dit souvent au Québec. Hein. Il suffit de deux ou trois grandes gueules là, qui tiennent un discours un peu impressionnant et voilà que tout le monde s'écrase et les suit en répétant et en régurgitant ce même discours à tort et à travers. Mais nous qui sommes de Dieu, nous avons un discours tout à fait différent. Nous avons d'abord un discours cohérent, un discours qui nous est donné par révélation, n'est-ce pas, de Dieu. Ce n'est pas un discours que la raison a formulé, a inventé, a concocté et qui donne une bonne haleine. Non, c'est un discours qui est parfaitement conforme à la vérité, parce que qu'est-ce que la vérité? Ben Jésus nous le dit, hein, dans la prière sacerdotale de Jean 17, « Ta parole, ô Dieu, est la vérité. » Et nous nous tenons pour cette parole-là. On a besoin de courage, vous savez, parce que nous ne sommes pas très nombreux, nous sommes une minorité sur la planète, sur le globe, à tenir ce discours-là. Et c'est un discours qui a besoin d'être entendu, c'est un discours qui a besoin d'être proclamé, c'est un discours qui a besoin d'être défendu, pour lequel on a un impératif besoin de se tenir. Le monde a besoin de voir des gens de conviction qui vont se tenir pour ce discours-là. Non pas un terrorisme religieux, mais une conviction profonde qui fait qu'on ne se courbe pas devant les différentes statues du monde, devant l'idolâtrie, devant l'adoration du discours mondain. Alors l'émission se termine comme cela ce matin, nous poursuivrons ce beau récit lors de notre prochaine émission. Et l'émission de ce matin, bien sûr, vous revient en rediffusion cet après-midi à 14h comme c'est le cas chaque jour. Entre-temps, je vous laisse nos coordonnées si vous désirez nous contacter. Notre adresse postale AERBQ, casier postal 40088 Québec QC, G1H2S5. Notre adresse courriel, vous la verrez sur notre site internet, foifm.com, foifm.com. Vous aurez également beaucoup d'autres renseignements sur nos émissions. Et notre numéro de téléphone, je devrais en parler au pluriel, puisque nous en avons deux. Pour les gens de la région de Québec, c'est le 418-688-0506. Ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Je vous souhaite, chers amis, une excellente journée. En vous exprimant ma reconnaissance d'avoir été là ce matin, et ne manquez pas de vous tenir pour Dieu aujourd'hui, dans quelque occasion que ce puisse être, qui se présente, même si ça doit se faire à contre-courant, et même si cela peut, comporter quelques risques. Notre Dieu est fidèle, et il sait toujours récompenser la fidélité. À la prochaine donc, et que le Seigneur vous comble de ses bienfaits.